La littérature est de retour sur Radio N. Bonsoir à toutes et à tous. Voici votre émission littéraire, c'est Wagon Livre. Je suis heureux, bien évidemment, de vous retrouver pour partir à la redécouverte d'un romancier de la nature et de la paix. En effet, nous allons ce soir, et jusqu'à 22h, évoquer Jean Giono. Et nous serons accompagnés par Gérard Calmette, que je salue et à qui je dis bonsoir. Bonsoir Gérard Calmette.
Bonsoir.
Merci à vous d'avoir répondu à notre invitation. Il y a longtemps, effectivement, que nous nous étions rencontrés. Et le moment est enfin venu pour vous, Gérard Calmette, de monter à bord de Wagon Livre pour parler d'un romancier qui vous accompagne depuis très longtemps, depuis votre jeunesse, et qui habite à vos côtés, ici à Accolé. Giono est à vos côtés un petit peu chaque jour.
Giono est avec moi chaque jour, mais ce que je voulais vous reprendre, ce que vous disiez, à savoir que je suis monté à bord de votre train, est-ce que c'est un train fiable, s'il n'y a pas de risque de déraillement? Car bah, vous parler de Giono, pour moi, c'est quand même une aventure, en quelque sorte. Giono,
presque un pèlerinage.
Un pèlerinage, oui, si vous voulez. Oh, ce n'est pas Dieu, quand même, Dieu le Père, Jean Giono, tout de même. Mais alors, c'est vrai que je vis en sa compagnie depuis maintenant un bon nombre d'années. Et avec une grande satisfaction, c'est un écrivain qui, on le verra sans doute en en parlant, m'a ouvert les yeux sur beaucoup de sujets, notamment sur moi-même, qui paraît relativement important, en toute modestie.
Alors, on va parler un petit peu de vous. Je vous présente à nos auditrices et auditeurs. Vous êtes né à Paris. Vous m'autorisez à donner l'année de votre naissance?
Ah oui, car c'était hier ou presque.
Vous êtes né l'année du Front Populaire.
Absolument.
En 1936.
C'était prémonitoire.
Vous avez longtemps travaillé... Enfin, vous avez travaillé un petit peu dans la banque,
oui.
Et puis dans une grande multinationale, jusqu'à
oui.
l'âge de 50 ans.
Oui.
Et à l'âge de 50 ans, vous allez échanger la ville contre la campagne, c'est-à-dire que vous quittez Paris, et avec votre épouse, vous venez vous installer, il y a maintenant 30 ans à peu près, dans le petit village d'Accolé.
Oui, absolument. C'est une aventure que l'on peut considérer comme particulière, comme originale, comme peut-être farfelue, je ne sais pas. Toujours est-il que cette idée-là nous est venue, enfin m'est venue d'ailleurs, je dois dire à moi plus personnellement, entre autres, parce que je m'ennuyais beaucoup des journées durant dans à la fois cette banque, puis ensuite cette multinationale, attendant vraiment presque en avec le désespoir au cœur la fin de la journée, puis la fin de la semaine et la fin des mois. Donc, à un moment donné, j'étais d'une tristesse infinie quand je suis... un beau soir, tombé sur un livre de Jean Giono. Ça paraît curieux de dire ça, mais ce livre qui m'a ouvert d'autres perspectives, d'autres horizons, peut-être une possibilité de voir la vie différemment. Bref, c'était pour moi quelque chose d'exceptionnel. Et je crois que c'est ça qui nous a ouvert la route de la campagne, je crois.
Et ce livre, c'était Que ma joie demeure.
Ce livre, c'était Que ma joie demeure. Il faut dire Que ma joie demeure. Il faut dire que ce n'est pas, évidemment... C'est un titre connu de Jean Giono, mais il faut dire que ce livre commence d'une manière, à mes yeux tout au moins, tout à fait exceptionnelle. Je me permets de vous dire cette phrase-là qui me paraît superbe. Le texte de Jean Giono par « C'était une nuit extraordinaire ». Rien que là, on peut faire la pause. Une nuit extraordinaire. Je trouve que c'est déjà remarquable. Dit-il, et il dit ensuite « Il y avait eu du vent ». Il avait cessé, et les étoiles avaient éclaté comme de l'herbe. Elles étaient en touffe, avec des racines d'or, épanouies, enfoncées dans les ténèbres, et qui soulevaient des mottes luisantes de nuit. Or, je lisais ce texte, j'étais ce soir-là resté un peu plus tard que d'habitude, au boulot, comme on dit, dans cette multinationale, le journal des sous m'avait demandé quelque chose d'un peu particulier, bref. J'allais reprendre le train pour rejoindre ma banlieue, puisque j'habitais dans la banlieue parisienne à l'époque, et en attendant l'heure de m'en aller, de prendre ce train, j'ai commencé donc à lire ce texte de Giono, Que ma joie demeure, et je ne l'ai plus lâché. car c'était pour moi véritablement une découverte absolument fantastique. Il faut dire que dans ce livre que ma joie demeure, c'était une nuit extraordinaire. Durant cette nuit, un paysan qui s'appelle Jourdain se réveille au milieu de la nuit. Et d'un seul coup, il se dit « Si j'allais retourner mon sol, il doit être dans les 3 heures du matin. » Ce Jourdain saute de son lit, s'en va à son écurie pour prendre son cheval, car l'idée folle lui est venue donc d'aller labourer en pleine nuit. Il entre dans l'écurie, et que voit-il ? Son cheval était prêt, son cheval l'attendait. C'est incroyable, la tête haute, il le regarde entrer. Jourdain part retourner sa terre donc au milieu de la nuit, et qu'observe-t-il ? Son travail effectué donc, en haut du champ, un personnage l'observe. Ce personnage s'appelle Bobby, dans le roman de Jean Giono, et ce Bobby est un poète, et ce poète va nous enseigner à nous ce que peut être la beauté de la vie à la campagne. Donc quand on lit un livre de ce genre, on est absolument retourné, bouleversé, et le désespoir commence, le désespoir quotidien qui était le mien dans cette vie de bureaucrate infernal, ce désespoir se transforme petit à petit en une lueur d'espoir. Voilà le fait marquant de cette lecture de « Que ma joie demeure », lecture effectuée, comme je vous le dis, dans une multinationale au moment de prendre mon départ le soir pour retourner à mon logis.
Alors cet attrait qu'a exercé sur vous la campagne, on peut dire qu'il y a eu un appel de la nature, vous en avez rendu compte dans « Un Parisien à la campagne », c'était en 1996, oui, c'est quasiment votre premier écrit, oui. C'est aux éditions Webeck, pardonnez-moi. Alors ensuite, il y a eu Verger sauvage, aux éditions de l'Armançon.
Oui, oui.
Et à ce jour, vous avez à votre actif presque une vingtaine de livres. Alors, le tout dernier a paru aux éditions de l'Armançon et a pour titre Kader Aziz Aubry de Vézelay à Béjaïa.
Oui.
Où là, vous nous entraînez dans l'Algérie de vos 20 ans, celle d'avant la guerre d'indépendance.
Oui, oui.
Bon. On ne va pas tellement en parler ce soir. Ce soir, on va rester très concentré sur Giono. À travers Giono aussi, vous l'écrivez donc dans votre livre « Gionomadie » paru aux éditions de l'Armançon, qui est le livre que nous mettons en valeur ce soir. C'est que Giono est devenu pour vous une manière de gourou.
C'est devenu une manière de gourou, vous avez raison. Alors ça, bien sûr, il y a des raisons déjà plus mineures. Par exemple, des caractéristiques, Giono ressemblait à mon père. Bon, il avait le même visage. Et travaillait dans la même banque. Giono a travaillé au comptoir national d'escompte de Paris, qui était devenu l'actuel BNP. À l'époque, Giono travaillait dans cette banque, qu'il a quittée, il a essayé l'enfer, il s'en va, il avait raison. Mon père, lui, a continué dans cette banque, la même, le comptoir national d'escompte. Et j'ai fait mes premières armes, si je puis dire, dans ce fameux comptoir national d'escompte. Pareil, oui, donc une succession d'emplois dans cette banque que je ne peux pas voir, mais ça ne fait rien. Mais qui m'a quand même permis de vivre un certain temps. Et puis aussi, autre coïncidence...
Troublante.
Mon père est décédé la même nuit, pas de la même année, donc 1990, Giono, c'était en 1970, mais la même nuit du 8 au 9 octobre. Et j'ai trouvé ça curieux. Par ailleurs, il avait la même tache de rousseur au même endroit du visage, etc. Enfin, des choses. Bon, ça, c'est une chose. Et puis, par ailleurs encore, mon père a fait construire un chalet sur les bords du lac du Bourget, en Savoie. Et il se trouve que j'ai appris que Jean Giono avait admiré ce lac du Bourget. Et donc il est venu y séjourner à un moment donné, c'était du moins pendant l'été 1943. Giono est venu séjourner au sud du lac du Bourget.
Au col du Chat.
C'était très exactement la chapelle du Mont du Chat, c'est le nom du village qui est au-dessus du col du Chat. Et d'où il avait une vue plongeante sur ce lac du Bourget qui s'étendait évidemment à ses pieds. Corziol aurait-il dit, comme il disait dans certains bouquins. Et c'est encore une coïncidence. Mon père fait construire ce chalet. Et Jean Giono est venu à proximité. Il n'est pas très connu que Jean Giono soit venu dans cette région savoyarde. Je l'ai su par la fille de Jean Giono, Sylvie Giono, qui a bien voulu m'envoyer une lettre, une des nombreuses lettres, puisqu'il écrivait pratiquement tous les jours à sa famille depuis la Savoie, une des nombreuses lettres que Jean Giono envoyait à sa famille, où il situait cet hôtel où il avait résidé, la chapelle du Mont du Chat, et ça m'a donné l'envie et presque le devoir d'aller en excursion à cette chapelle du Mont du Chat pour voir dans quel restaurant se trouvait Giono, quel point de vue il pouvait avoir sur le lac, etc. Il faut dire que Giono s'était échappé à l'époque, en quelque sorte, vous savez qu'il vivait à Manosque, Et Jean Giono, c'était probablement, je dis probablement parce que c'est pas une certitude, même sa fille Sylvie n'est pas absolument affirmative sur ce sujet.
C'était protégé.
Giono, c'était sans doute protégé, en effet, vous avez raison, c'était sans doute protégé en filant sa voix depuis Manosque. Pourquoi ? Parce que un attentat avait failli détruire la maison de Jean Giono. Attentat dont les auteurs, alors là c'est compliqué.
C'était la résistance locale qui, en fait, donnait un avertissement à Giono dont les textes étaient publiés dans la presse pro-allemande ou vichysoise.
Dans deux textes ont été publiés. Mais il faut dire qu'à l'époque, ça c'est justement c'est un sujet qui me hérisse. Parce que Jean Giono était traité de collaborateur.
Alors, on aura l'occasion d'en reparler dans l'émission. On aura l'occasion d'en reparler dans l'émission. Vous avez parlé du col du chat en Savoie, donc où Giono a séjourné en juillet 1943. C'est une montagne qui aussi a été franchie par Montaigne, et puis aussi, quelque part, on revient avec le lac du Bourget, on revient à quelqu'un que vous aimez beaucoup, celui que vous appelez votre cher et généreux Lamartine, auquel vous avez consacré deux livres, l'un aux éditions Christian Pirot, qui d'ailleurs a reçu un prix littéraire en 2000, le prix de littérature de l'Académie de Mâcon, le prix de culture bourguignonne, et puis un autre, Lamartine, Voix de la République, aux éditions de l'Armançon, qui a paru en
98. Parce que Lamartine, il faut dire que Lamartine...
Il y a trois hommes forts autour de... Enfin, j'allais dire, c'est une image. Il y a trois hommes forts qui environnent la vie de Gérard Calmette.
Oui.
Ah, peut-être Lamartine, Giono, allez, on peut dire Jules Roy et Enrico Macias.
Oui, Enrico Macias, ça on va le dire en chanson. vous avez raison, mais Lamartine, pourquoi ? Parce que j'ai découvert Lamartine au lycée, dès la sixième, par un professeur qui nous avait fait l'éloge de ce poète d'une manière très touchante, etc., en classe. Et donc, en sortant du lycée ce jour-là, je suis tombé dans une librairie, à Paris, c'est dans le 15e, c'est pas du lycée Buffon, donc je suis tombé dans une librairie où, comme par hasard, je suis tombé sur une belle biographie de Lamartine, par Maurice Levaillant, qui a été le spécialiste irremplaçable de Lamartine. Et je me suis je suis tombé sous le charme de ce poète. J'ai lu la plupart de son œuvre poétique quand j'étais jeune. Pourquoi est-ce que j'étais sensible, entre autres, à Lamartine et d'une manière plus générale à la poésie? Parce que j'avais une souffrance personnelle qui trouvait son origine dans la disparition prématurée de ma mère en 1943, donc j'étais orphelin. Et donc je pense que cette poésie-là et Lamartine, entre autres, ont été une forme de consolation pour moi. Voilà pourquoi Lamartine est devenu un ami irremplaçable.
Alors Lamartine, peut-être une thérapie par rapport à la disparition de la maman, et Giono, une thérapie par rapport à... aussi en souvenir avec l'image paternelle.
Oui, alors Giono, l'image paternelle. Oui, mais l'image paternelle, je dirais ça plus ou moins secondaire. Enfin, c'est à la limite presque anecdotique, de même que le lac du Bourget, si vous voulez. Je pense que chez Giono, j'ai trouvé par contre une nourriture qui me permet aujourd'hui d'avoir du recul par rapport à la société dans laquelle je vis. Et là, on entre dans d'autres domaines. Je pense notamment au bouquin de Giono qui s'appelle « Lettre aux paysans ». Sur la pauvreté, je pense que Giono m'a indiqué certaines voies de réflexion relatives à notre mode de vie en général, mode de vie citadin, aussi par rapport au progrès en général, notamment à la technologie, aussi par rapport à l'argent et à l'apport du gain, aussi par rapport à l'ennui créé précisément par ce machinisme, n'est-ce pas, qui fait que les hommes sont maintenant eux-mêmes devenus des véritables robots au service de robots. Giono m'a ouvert toutes ces perspectives, ça ne veut pas dire que j'adhère à l'ensemble de tout ce que Giono a dit, mais en tout cas à beaucoup de ses points de vue. Voilà aussi un des apports majeurs de Giono pour moi.
Nous sommes, vous l'aurez bien compris, sur les pas de l'écrivain Jean Giono, ce soir en compagnie de notre invité Gérard Calmette dans Wagon Livre. Gérard Calmette, si vous en êtes d'accord, on marque une première escale musicale avec un titre que vous avez choisi, un titre de Jean Ferrat qui déclare que la montagne est belle.
Oui. Est-ce que je peux fumer ma pipe en même temps ?
Vous pouvez fumer la pipe pendant qu'on écoute Jean Ferrat.
« Ils quittent un à un le pays pour s'en aller gagner leur vie, loin de la terre où ils sont nés. Depuis longtemps, ils en rêvaient, de la ville et de ses secrets, du formica et du ciné. Les vieux, ce n'était pas original, quand ils s'essuyaient machinal, d'un revers de manche les lèvres. Mais ils savaient tous à propos, tuer la caille ou le perdreau, et manger la tome de chèvre. Pourtant, que la montagne est belle, comment peut-on s'imaginer, en voyant un vol d'hirondelle, que l'automne vient d'arriver. Avec leurs mains dessus leur tête, ils avaient monté des murettes jusqu'au sommet de la colline. Qu'importe les jours, les années, ils avaient tous l'âme bien née, noueuse comme un pied de vigne. Les vignes, elles courent dans la forêt, le vin ne sera plus tiré, c'était une horrible piquette. Mais ils faisaient des centenaires à ne plus que savoir en faire s'ils ne vous tournaient pas la tête. Pourtant, que la montagne est belle, comment peut-on s'imaginer, en voyant un vol d'hirondelle, que l'automne vient d'arriver. Deux chèvres et puis quelques moutons, une année bonne et l'autre non, et sans vacances et sans sorties. Les filles veulent aller au bal, il n'y a rien de plus normal que de vouloir vivre sa vie. Leur vie, ils seront flics ou fonctionnaires, de quoi attendre sans s'en faire que l'heure de la retraite sonne. Il faut savoir ce que l'on aime et rentrer dans son HLM, manger du poulet aux hormones. Pourtant, que la montagne est belle, comment peut-on s'imaginer, en voyant un vol d'hirondelle, que l'automne vient d'arriver.
Plus proche de vous, partout, pour vous, Radion, au cœur de la Bourgogne.
Jean Ferrat, à l'instant sur votre radio locale, la suite de Wagon Livre ce soir avec notre invité Gérard Calmette pour Giono m'a dit, paru aux éditions de l'Armançon, essai disponible auprès des libraires. Gérard Calmette, alors continuons à évoquer certains aspects de l'œuvre et du romancier Giono. Giono se disait sans pitié pour l'argent. J'aimerais que vous développiez un petit peu cette position de mépris profond de Giono à l'égard de l'argent qu'il considérait comme étant à l'origine de tous les maux de la société.
Alors d'une part, je pense que le Giono, en effet, a un point de vue par rapport à la société. Mais je pense que, a priori, il a déjà un rapport par rapport à lui-même. C'est-à-dire qu'il considérait, Giono, que l'argent, le besoin d'argent était inférieur à ses désirs. Donc ça ne veut pas dire qu'il avait beaucoup d'argent, mais ça veut dire que ses désirs dans ce domaine-là étaient très modestes. Donc il avait toujours suffisamment d'argent pour combler des désirs qui étaient modestes, qui ne nécessitaient pas d'argent. Et je crois que c'est un point de vue que, personnellement, j'ai tendance à partager, même si je sais qu'un minimum d'argent est malheureusement nécessaire pour vivre.
Vous citez Giono.
Oui.
« J'ai contre l'argent toute ma liberté, j'ai employé à me battre contre l'argent tout l'effort que couramment on emploie à se battre pour lui. »
Oui.
Et un peu plus loin, vous citez encore Giono, le capitaliste n'est pas un homme, il n'exprime pas le monde, et son ambition est précisément, au contraire de la définition même de l'homme, de ne pas l'exprimer. »
Non, en effet, il n'exprime pas l'homme, car je crois que l'homme est composé d'un certain nombre de désirs qui ne passent pas par la notion d'argent. Par exemple, l'homme désire le beau. Je pense que l'argent ne fournit pas le beau. L'homme a besoin de liberté. Je suis convaincu que l'argent n'offre pas des possibilités de liberté très grandes. L'homme, normalement, s'il est normalement constitué, a besoin d'un minimum de fraternité. Je ne pense pas que l'argent soit susceptible d'apporter encore ce désir plus ou moins avoué de l'homme, etc. Je pense que dans de multiples circonstances, l'argent ne permet simplement que de s'offrir quoi ? S'offrir finalement des distractions, souvent, j'allais dire à bas prix, non, à haut prix, mais à bas prix, enfin, à basse valeur morale. Donc je pense que, en effet, courir après l'argent, c'est sacrifier sa vie pour des choses qui n'en méritent pas la peine, c'est tout. Ce n'est pas, si vous voulez, un pessimisme exagéré, c'est simplement, me semble-t-il, l'observation de la société d'aujourd'hui me fait considérer que les gens courent après des mirages, en espérant que ces mirages vont les rendre heureux, ce qui n'est pas le cas. Jamais les gens, me semble-t-il, quand je regarde autour de moi, n'ont été aussi tristes ni aussi désespérés qu'aujourd'hui. Donc ce sont des satisfactions à bas prix. Il faut partir en vacances, mais a-t-on besoin de partir en vacances sur la Côte d'Azur ? Je n'ai rien contre la Côte d'Azur, mais je me permets de vous le dire, moi je préfère la Bourgogne, mais c'était parce que je suis chauvin. Mais a-t-on besoin de dépenser beaucoup d'argent pour partir en voyage très loin, visiter le Brésil, visiter très bien de visiter le Brésil, d'accord ? Visitons déjà la Bourgogne, puis essayons même de nous y installer. Pourquoi pas d'y vivre ? Oh, mais voilà une belle aventure que d'y vivre tranquillement, chez soi, sur un petit coin de terre, libre, libre de chacune de ses journées. Voilà un beau programme pour moi. Ça vaut le voyage au Brésil ou au Japon.
Giono est farouchement opposé au machinisme. Il écrit « Le machinisme contre nature est la mort ».
Oui, je crois que Giono...
Et pourtant, la machine libère l'homme.
Mais elle ne le libère pas, autrement, elle l'a rendu esclave de cette machine. Elle a rendu les hommes esclaves d'elle-même, cette machine. Mais vous savez, de grands esprits, bien avant Giono, avaient déjà... Enfin, quelques temps, du moins, avant Giono, avaient déjà prédit que le machinisme serait quelque chose qui supprimerait progressivement le travail de l'homme. Et ça se comprend. La machine... Alors, certains ont dit, la machine va soulager l'homme, va lui permettre de travailler moins. En fait, elle le contraint surtout à ne plus travailler du tout. Alors, je trouve qu'il y a vraiment une grande limite et que les progrès technologiques ne sont pas adaptés aux progrès de l'homme, de ce que l'homme en attend de ce progrès technologique. Il en attend quelque chose, c'est peut-être travailler moins, puisqu'il y a des machines, mais travailler libre quand même, alors que l'homme aujourd'hui est enchaîné à la machine, ou bien ne trouve pas de travail du tout, et c'est le problème du chômage. Et moi, je trouve justement que, personnellement, je considère que le machinisme est une des causes du chômage qui existe. Ça, j'en suis absolument convaincu. Ça me paraît d'ailleurs tellement évident que... Si je prends, par exemple, je ne sais pas, si je regarde autour de moi, je crois, l'autre fois, j'en parlais avec un ami, quand on regarde autour de soi et qu'on voit aujourd'hui les ravages faits par l'agriculture moderne, on peut se poser des questions. Quand on pense qu'il y a 40 ans, 30% des Français travaillaient le sol... Aujourd'hui, 3% des Français travaillent le sol. Alors, les autres sont partis à la ville. Mais faire quoi à la ville, puisque les machines déjà font beaucoup de travail? Alors, je ne suis pas étonné que les taux de chômage atteignent de tels niveaux, malheureusement. Et je crois que le machinisme est une des causes essentielles de ce chômage, me semble-t-il. Et je suis désolé que quand des découvertes se font, quand des avancées technologiques sont envisagées, on n'étudie pas la notion de progrès possible pour l'homme lié à ces nouveautés. Malheureusement, on ne le fait pas. C'est un point de vue, n'est-ce pas ?
Nous aurons bien compris que, tout comme Giono, vous vous méfiez des progrès. Encore faut-il que le progrès soit un vrai progrès.
Soit un vrai progrès pour l'homme. Pour l'homme, pour la vie de l'homme, pour la vie. Et bon, on est heureux, on est content de vivre, évidemment. On voudrait vivre heureux. On voudrait vivre libre. Pour vivre heureux, il faut vivre libre. Alors, libre, ça veut dire être ordonné soi-même, bien sûr, ça veut pas dire mettre la pagaille, loin de là. Ça veut dire être au contact de la nature. La nature, tous les êtres vivants sont en rapport avec la nature, que ce soit les végétaux, que ce soit les animaux, tous sont en rapport, sauf les animaux qui vivent aujourd'hui dans un état de sous-animaux dans des concentrations, etc., d'élevage industrialisé. Mais tous les animaux, toutes les plantes vivent proches de la nature, sauf l'homme, qui vit maintenant, je ne sais pas, à 90% dans des cités, au milieu du béton.
Des bars à chalets.
Voilà. Donc il a perdu le contact avec la nature, et cette nature, c'est elle qui nous fait vivre, c'est elle qui nous a permis d'exister. Et il n'y a qu'elle qui nous permettra de survivre. Il faudrait peut-être qu'on y songe, ça. Peut-être seule cette nature est en mesure de nous permettre de survivre. Nous n'allons pas trouver les moyens, de la manière que nous vivons aujourd'hui, d'assurer notre survie, d'autant que la population mondiale, on le sait, s'accroît. Donc il faut de plus en plus respecter la nature. Respecter, ça veut dire, à mon avis, il y a des tendances écologiques, je ne suis pas contre, mais ça voudrait dire quelque chose de beaucoup plus fondamental, qui serait le retour à la Terre. Et je sais que je vais faire sourire, mais sourions, sourions. Je pense qu'un homme quittant son HLM et son emploi souvent imbécile, un certain nombre d'heures par semaine, hélas, et revenant à la campagne, retrouverait un certain goût de vivre bien supérieur à celui qu'il connaît, et finalement, une certaine joie de vivre, en définitive.
On reviendra sur ce thème de la nature, parce que c'est un thème central dans l'œuvre romanesque de Giono et aussi dans la vie de Gérard Calmette, qui est notre invité ce soir. On écoute un titre que vous avez retenu et qui aussi, à mon avis, pourra introduire la causerie que nous reprendrons sur le pacifisme de Giono. On va écouter Le Déserteur, c'est
oui.
Boris Vian.
Ah oui, très bien.
Monsieur le Président, je vous fais une lettre que vous lirez peut-être si vous avez le temps. Je viens de recevoir mes papiers militaires pour partir à la guerre avant mercredi soir. Monsieur le Président, je ne veux pas la paix, je ne suis pas sur terre pour tuer des pauvres gens. C'est pas pour vous fâcher, il faut que je vous dise, ma décision est prise, je m'en vais déserter. Depuis que je suis né, j'ai vu mourir mon père, j'ai vu partir mes frères et pleurer mes enfants. Ma mère a tant souffert qu'elle est dedans sa tombe et se moque des bombes et se moque des vers. Quand j'étais prisonnier, on m'a volé ma femme, on m'a volé mon âme et tout mon cher passé. Demain de bon matin, je fermerai ma porte au nez des années mortes, j'irai sur les chemins. Je m'en dirai ma vie sur les routes de France, de Bretagne en Provence, et je dirai aux gens, refusez d'obéir, refusez de la faire, n'allez pas à la guerre, refusez de partir. S'il faut donner son sang, allez donner le vôtre. Vous êtes bon apôtre, monsieur le président. Si vous me poursuivez, prévenez vos gendarmes que je n'aurai pas d'armes et qu'ils pourront. pour en tirer.
Le déserteur Boris Vian, un choix de notre invité Gérard Calmette pour évoquer un romancier de la terre et de la paix, disparu en 1970. Nous parlons de Jean Giono, nous sommes ensemble jusqu'à 22h. Je rappelle le titre du livre de notre invité, Giono m'a dit, et c'est un livre que l'on trouve d'ailleurs dans toutes les librairies de Lyon et tout partout en France, aux éditions de l'Armançon. On s'est quitté juste avant de déserter. Notre manière aussi, oui. On s'est quitté en parlant de la notion vous avez beaucoup parlé de la nature, on a parlé des méfaits du progrès. Giono écrit ceci, je le cite, « On pourra aller sur la lune, ça ne changera rien parce que tout le bonheur de l'homme est dans de petites vallées. »
Oui, je pense
que... Quel éclairage pouvez-vous apporter à cette citation de Giono en la calquant sur votre propre choix d'avoir quitté Paris il y a 30 ans avec votre épouse pour vous installer ici à Accolé, dans Lyon.
Oui, alors vous avez raison, Giono a tout à fait raison, je veux dire que, il disait, lui, aller sur la Lune, moi j'étais allé dans une banque, puis dans une multinationale, il est certain que c'était pas la Lune, mais c'était la Lune d'une certaine manière, puisque j'y gagnais confortablement mon existence. Bon. Et puis, ensuite, j'ai connu le bonheur dans une vallée, dans une petite vallée bourguignonne, enfin, non pas d'Accolé où j'habite, et donc je me suis aperçu qu'en effet, je trouvais là beaucoup plus de bonheur qu'en allant dans cette multinationale et dans cette banque, donc le bonheur était davantage dans une petite vallée que sur la Lune, ça c'est certain. Je crois que le résumé de Giono correspond bien à ce que je pourrais faire moi-même de ma propre existence. Car nous avons quitté, ma femme et moi, ce Paris-là, le Paris, je parle de Paris parisien, si je puis dire, pour nous installer en Bourgogne, pour essayer en effet de trouver notre bonheur dans cette petite vallée, en faisant quoi? Eh bien, en vivant nous-mêmes de ce que la terre est capable de produire. C'est-à-dire que nous nous sommes retroussés les manches, on a échangé nos habits de bobo, on a troqué nos habits de bobo contre des vêtements paysans, on a chaussé des bottes, ma femme, plutôt que des talons aiguilles. Et puis, on s'est inspiré de conseils qui nous étaient donnés par un fermier, un vieux paysan dans le temps qui conduisait ses chevaux, qui était le dos corsé sur sa charrue, et donc il m'a donné des conseils concernant la culture d'un jardin, l'élevage de quelques bêtes, de quelques volailles, de quelques moutons, d'un cochon que nous avons élevé, etc., qui nous a mis donc au courant du minimum de connaissances nécessaires pour espérer vivre comme un paysan, tout au moins comme quelqu'un qui était proche de la terre et qui pouvait subvenir à ses besoins de cette manière-là. C'est ce que nous avons fait, c'est ce que nous continuons de faire, sauf que l'âge aidant maintenant, les animaux sont réduits, il n'y a plus guère que moi dans la ferme en question, mais nous avons tout de même... assurer notre subsistance grâce à la culture d'un potager, grâce à l'entretien de vergers, puisque nous avons quand même du cidre, un petit peu de vin.
Du miel.
Du miel aussi. Et puis, donc, c'est ces légumes qui nous permettent de survivre. Voilà. Donc,
cette révolution dans votre existence, ce choix de vie à la campagne, un Parisien à la campagne, ça a été une quête du bonheur. Inspiré notamment par Giono et la lecture de Que ma joie demeure.
Absolument. Et je crois que, alors non seulement Que ma joie demeure de Giono, mais bien sûr d'autres livres encore de Giono. Je vous ai parlé tout à l'heure de La lettre aux paysans. Il y a aussi Colline. Il y a aussi.
Regain.
Il y a aussi Regain. Je parle du premier Giono. Il faut voir, il y a quand même, on le dit d'une manière assez classique d'ailleurs, quand on parle de Jean Giono, il y a deux périodes. Lui n'a plus voulu à la fin de sa vie en entendre parler, mais il y a deux périodes de Giono. Qui est le Giono qui va jusqu'en 1945, et puis le Giono qui va de 45 à 70. Du point de vue littéraire, ce sont deux Giono différents. Ensuite, il a fait des romans en bonne et due forme. Avant, c'était des essais romancés qui étaient, dans le fond, davantage des indications données au public sur une manière, précisément, vous en parliez, de trouver le bonheur, d'avoir une vie qui lui permette de s'échapper des contraintes des sociétés industrielles, des sociétés marchandes, etc. Et puis, on lui en a fait le reproche de ça, pacifisme exagéré, on en parlera peut-être, Donc Giono ensuite a changé sa méthode, a changé sa manière de faire et a publié autre chose. Donc moi, c'est la première manière Giono qui m'intéresse beaucoup.
Vous dites que Giono était optimiste pour lui-même,
oui,
mais pessimiste pour la société.
Il était pessimiste pour la société, en effet. Il faut dire que Giono avait quand même connu aussi avait connu une vie quand même relativement, même nettement mouvementée. Il a tout de même fait la guerre de 14-18, qui n'était pas rien. Et ça, je crois que c'est des épreuves dont on ne se remet pas. Il en a réchappé, certes, mais c'est quelque chose qui lui a permis de parler à ses concitoyens, de parler à ses lecteurs, de leur dire, écoutez, évitons avant tout tout ce qui peut entraîner une guerre, car c'est la chose la plus abominable qui soit, et occupons-nous de notre bonheur personnel, assez de l'État, assez de la patrie, notamment la patrie, ne voulait pas entendre parler de la patrie. Bon, il avait peut-être raison, hein, il avait peut-être tort, je ne sais pas, de s'acharner.
Mais entre 33 et 36, il est quand même plutôt du côté des gens de gauche. Il ira à Moscou en 36.
Alors, Giono a été, oui, Giono a été, en effet, il a fait un petit bout de chemin, comme on dit, avec le Parti communiste. Giono, pourquoi? Mais lui, en ce qui le concernait, c'était au nom du pacifisme. Il a cru que, il a cru, certains peut-être peuvent toujours continuer à le croire, il a cru que le communisme était synonyme de pacifisme. Il a cru que l'homme allait devenir plus heureux en adoptant les théories communistes. Il a cru à un moment donné. Et puis ensuite, il a rompu précisément avec le Parti communiste quand il s'est aperçu qu'il ne s'agissait plus du tout de la même affaire. Et notamment en 1938, quand il y a eu Munich, et quand l'autorisation a été donnée, notamment par Chamberlain d'ailleurs, et bon, Daladier et consorts, accord donné à l'Allemagne d'envahir la Tchécoslovaquie, donc Giono là a mis les hauts, là définitif, avec le Parti communiste et avec la politique, et a accentué sa volonté d'un pacifisme à tout craint, ce qui lui a joué des tours, enfin on en parlera peut-être, je ne sais pas, ça lui a joué des tours dans l'existence. Mais Giono, je crois à juste titre, voulait que nous nous prémunissions contre la guerre, n'est-ce pas? La guerre, c'est le moment fatal, le moment définitif. Il faut tout faire avant. C'est avant que ça se joue. Et tout l'effort de Giono, son pacifisme, c'est avant, en effet.
Mais alors, il est quand même naïf, au point qu'il pense, il envisage d'aller rencontrer Hitler avec un interprète juif. Ça, c'est une information exceptionnelle,
alors,
ça, Gérard
Calmet. C'est une information exceptionnelle moi aussi, je suis comme vous. Là, je me demande, je suppose que c'est vrai, mais...
Ou un bluff de Giono?
Alors, est-ce un bluff de Giono? Vous savez, on a dit que... disons des mauvaises langues. On dit que Giono était aussi un fief et menteur. Alors, je ne sais pas l'information d'où elle sort exactement. Je l'ai lu, moi, dans une biographie de Giono. Donc, il se serait déclaré prêt à aller, en effet, défendre la cause de la paix auprès d'Hitler. Bref. Et puis, surtout... Il a prêché, une manière de vivre pacifique à la veille de la guerre. Et ça lui a causé, évidemment, des ennuis très, très importants, puisqu'on l'a jeté en prison.
On y reviendra. Nous sommes ce soir en compagnie de Gérard Calmette pour son essai « Giono m'a dit », paru aux éditions de l'Armançon. On redécouvre Jean Giono, résolument pacifiste, comme vous l'avez dit, antifasciste et antistalinien. Il a vraiment été un romancier de la paix. À ce sujet, puisque la guerre de 14-18 a été pour lui un enfer, puisqu'il avait été mobilisé à l'âge de 20 ans, en 1915, nous écoutons une chanson au titre évocateur. Voici Le cri du poilu par François Tichaud, extrait du CD 14-18, Une vie de bonhomme. A tout de suite avec notre invité Gérard Calmette.
V'là plus d'une année que dans les tranchées, nos petits soldats loin de tout le monde sont là-bas. Tant que dans la bataille, ils bravent la mitraille, ils ne pensent plus à rien qu'à tirer sur les petits Prussiens. Mais quand ils sont hors peau et qu'ils n'ont pas de flingot, couchés sur le dos. À nos poilus qui sont sur le front, qu'est-ce qu'il leur faut comme distraction? Une femme, une femme. Qu'est-ce qu'il leur ferait gentiment passer un sacré bon moment? Une femme, une femme. Au lieu de voir la tête des Allemands, ils aimeraient bien mieux certainement une femme. Une femme. Très bon sang, qu'est-ce qu'ils ne donneraient pas pour tenir un moment dans leurs bras. Une femme. Une femme. Quand Henri Bambelle, il bouffe la gamelle, c'est vite avalé, en deux temps ça n'a pas traîné. Ensuite sur la paille, allongé il baille, se faisant nom de nom, presque tous la même réflexion. Et dans ce moment-là, à quoi pense-t-il tout bas? Ne cherchez pas. À nos poilus qui sont sur le front, qu'est-ce qu'il leur faut comme distraction? Une femme, une femme. Quand ils ont bouffé leur attaque, qu'est-ce qu'ils demandent comme second plat? Une femme, une femme. Sapristi, pour calmer leur mère, si leur arrivait comme dessert. Une femme, une femme. Qu'elle soit grande ou petite, ma foi, ça ne fait rien pourvu que ce soit. Une femme, une femme. Quand dans la tranchée, ils passent la journée, par les petits créneaux, ils envoient aux boches des pruneaux. Puis ils se reposent, pensent à des tas de choses qui leur font crénom passer dans tout le corps des frissons. Avant de s'endormir, ils ont dans un soupir le même désir. À nos poilus qui sont sur le front, qu'est-ce qu'il leur faut comme distraction? Une femme, une femme. Il y a tant d'amoureux là-bas qui pourraient faire plaisir à une femme, une femme. À ce moment, c'est l'essentiel, il faudrait qu'il leur tombe du ciel à une femme, une femme. Et comme prière du soir, ils disent: bon Dieu, fais-nous donc voir une femme, une femme.
Radion à Chablis 95.
Le cri du poilu par François Tichot sur votre radio locale. Giono Madi, l'essai de notre invité Gérard Calmette nous occupe ce soir, une excellente occasion, plus de 40 ans après sa mort, d'évoquer Jean Giono et de lui rendre hommage en donnant la parole à notre invité qui est l'auteur donc d'un essai sur l'auteur de Que ma joie demeure, très grand nombre de romans, de films aussi, car Giono a signé quelques films. Je crois qu'il y a eu un Crésus.
Oui, il l'a d'ailleurs, oui. Et aussi, il lui a donné quelques moments de friction avec Rému. Oui.
Alors, parlons un petit peu, Gérard Calmette, de la Grande Guerre, parce que Giono, effectivement, a combattu, a découvert l'enfer de la Première Guerre mondiale, l'horreur des tranchées. Alors, il avait été au 141e régiment d'infanterie alpine,
oui,
qu'il rejoint
Chambéry,
pour monter au front. Et pour Giono, c'est vraiment une catastrophe, la découverte de la guerre.
Absolument. Et il a décrit d'une manière évidemment très nette l'épouvante qu'il a connue là-bas durant cette guerre de 14-18. C'était, enfin, on le sait, c'est presque une banalité d'en parler. C'est une tuerie abominable, enfin bon. Et néanmoins, la plupart des soldats qui en ont réchappé à cette guerre, d'une part, ont admis que c'était une horreur, et en même temps ont été fiers tout de même d'avoir pu défendre la patrie, ce qui est non pas contradictoire, mais ce qui est quand même assez éloquent dans un sens. Et alors Giono, lui, n'a pas partagé tout à fait ce point de vue. Il a connu ses horreurs. Mais il a effectivement considéré, lui, Giono, que ce qui était important de retenir, c'était l'horreur, que la notion de patrie, c'était quelque chose qui ne l'intéressait pas beaucoup.
Pernicieux.
Pernicieux, oui. C'était pas quelque chose de fondamental pour lui. Il considérait que les hommes étaient faits pour autre chose que de vivre avec cette idée de patrie en tête, et de vivre notamment simplement heureux, dans des rapports sociaux qui soient simples, qui soient des rapports de voisinage, qui soient n'est-ce pas, mais jamais non plus de rapports de conquête, jamais de choses de genre. La conquête était un mot qui forçait tout à fait Giono, et je dois dire qu'en ce qui me concerne, je reçois là encore tout à fait dans cette idée, je pense que l'indépendance est quelque chose qui implique en effet de ne jamais tenter d'occuper son voisin, de le coloniser, de le dominer.
Vous êtes donc pour l'indépendance. C'est ce que, entre autres, vous défendez dans votre autre publication que je voudrais aussi mettre un petit peu en valeur. On en reparlera dans quelques mois. Kader Aziz Aubry de Vézelay à Béjaïa, aux éditions de l'Armançon, qui est aussi l'occasion de voir qu'une figure de l'orientalisme pictural est enterrée. Pas très loin d'ici, en fait.
Hein. Personne ne le sait, ou presque. C'est vrai.
Émile Aubry, à
vous tenir sur cure. À deux pas d'ici, oui.
Mais c'est une autre affaire. Revenons à Giono et à ses prises de position qui l'ont conduit à de gros ennuis. Alors, quand il prend position pour la paix, il est inquiété. Et quand, pendant l'occupation en France, la presse pro-allemande s'empare, peut-être sans l'accord de Giono, de ses textes, Giono est accusé d'être pro-pétainiste.
Alors il s'agit en deux occasions seulement, d'ailleurs. Je pense que Giono a été d'accord pour livrer ces textes-là, je crois. Mais il n'avait pas de raison très particulière d'un désaccord fondamental. Il faut voir comment était la France quand même en 1940. Il y avait le maréchal Pétain à la tête de l'État. Mais 90% des Français étaient pour le maréchal Pétain. Il ne faut pas l'oublier, les mêmes 90% qui ont été gaullistes à la fin de la guerre étaient pour Pétain au début de la guerre. Et je dois dire que les Français, moi j'étais gosse, enfant, j'entendais parfois quelques commentaires. J'ai bien entendu mon père notamment, non pas soutenir ce Pétain, mais dire il fait ce qu'il peut, il faut bien qu'il y ait quelqu'un. Et il aimait beaucoup De Gaulle parce qu'on entendait Londres nous diffuser sur les ondes les messages du général De Gaulle. Il aimait beaucoup De Gaulle aussi, mais qui lui était à Londres. Donc, d'une certaine manière, c'était plus facile d'être à Londres que d'être en France, évidemment. Mon père, donc, il n'avait rien contre Pétain, il est devenu ultra-gaulliste en 1945, comme 90% des Français.
Mais le maréchal Pétain dit aux Français, prône le retour à la terre,
absolument.
Et dit la nature, la terre ne ment pas.
La terre ne ment pas.
Alors, évidemment, Giono dit la même chose, mais sauf que lui, il n'est pas dans une démarche politique, Giono, il est dans une démarche d'artiste.
D'accord, mais il faut dire même autre chose, c'est que Giono l'a dit avant Pétain.
On est d'accord.
Et quand quand le mot de Pétain est sorti, De Gaulle a dit, mais il me pique ce que j'ai dit, vous voyez. Mais enfin, le sens était le même, c'est-à-dire la terre ne ment pas. Et en effet, moi personnellement, qui ne suis pas d'ailleurs pétainiste, pas particulièrement, en tout cas, on n'est pas de raison de l'être, j'ai tout à fait d'accord avec ce slogan « La terre ne ment pas ». Et je voudrais que
vous l'avez vérifié, vous.
Je l'ai vérifié. Et donc, je peux dire que c'est une vérité, et que c'est une vérité qui est bonne à dire. Et on devrait aujourd'hui, tant pis si ça rappelle Pétain, mais dire « La terre ne ment pas ». Il faudrait dire ça à tous les Français. Voilà ce que je veux dire.
D'accord.
Alors, Giono, comme vous dites, a été inquiété. Bon, on a commencé par le jeter en prison pour pacifisme exagéré au début de 1939, donc. Et puis, il a publié deux textes pendant la guerre, ce qui lui a valu d'être taxé de collaborateur à la fin de la guerre. Alors là, c'est des choses épouvantables, parce qu'il n'a pas du tout collaboré, il a publié deux textes et c'est tout. Et il faut dire que, pendant la guerre, qu'est-ce qui se passait? Il se passait que les acteurs montaient sur scène. Il n'y avait pas que Giono qui publiait deux textes. Rému à la Comédie Française, François Perrier au Bouffe Parisien, Jean de Sailly aux Français, Jean-Louis Barrault, etc. Non, mais non, on n'en est pas. On joue Les Mouches de Sartre, Le Soulier de Satin de Claudel. On va au cinéma, on va voir Gabin, on va voir Morgan, on va voir Fernandel.
Oui, puis il y a les artistes français qui vont en voyage en Allemagne.
Oui.
C'est bien tout ça.
On va même voir Piaf, on n'a jamais dit que c'était une collaboratrice, on va faire Piaf aux ambassadeurs, Mistinguette au Casino de Paris, etc. Le prix Goncourt décerne son prix, l'Académie française ne s'est pas sabordée pour autant, mais Jean Giono, pourquoi? Attentat contre la maison de Jean Giono,
en 1943.
Oui. Pourquoi? Pour lui dire, attention Giono, il ne faut plus jouer à ça. Qui a dit ça? Difficile à préciser. Mon interprétation est que le Parti communiste était extrêmement fort à Manosque, très bien implanté, et il y avait commencé fin 1943 déjà à avoir un début de revirement. Il faut dire que les communistes ont été quand même alliés de l'Allemagne au début de la guerre, et puis ont rompu, on le sait bien, un an après, enfin bon. Et je vois là, quand la fin de la guerre, quand il y a la fin de la guerre, Donc il y a des mesures pour punir.
Une sorte d'épuration
pour punir ceux souvent, qui avaient collaboré. Oui. Et il y avait notamment un dénommé Aubrac, qui est bien connu, qui était responsable de cette épuration pour l'ensemble, disons, du sud-sud-est de la France. Et donc Raymond Aubrac a dit, comment Giono n'a pas encore été fusillé, a dit Aubrac. Et ça, je pense que c'est un mot absolument abominable, quand je viens d'énumérer un certain nombre d'acteurs, d'artistes, etc. On pourrait en trouver beaucoup d'autres. Pourquoi Giono? Parce qu'Aubrac venait, lui, du Parti communiste. Giono avait rompu avec le Parti communiste. Enfin, voilà, je ne veux pas
m'étendre
davantage là-dessus, mais il fallait couper des têtes. Et d'ailleurs, je veux dire qu'Aubrac a été... le général de Gaulle lui a retiré ce pouvoir qu'il avait dans le sud-est de la France peu de temps après. Donc, bon, voilà, je n'ai rien contre Aubrac, sauf que c'est un mot qui est dit, parce que c'est correspond à une réalité, voilà.
Gérard Calmette, on est quasiment au terme de l'émission.
Déjà
Vous voyez, le temps passe vite à bord du wagon libre de Radion. En septembre 1944, Giono est jeté en prison. Reste quelques mois en prison. Giono, ça y est, vous avez... Vous êtes en totale harmonie avec lui.
Oui, mais il faut
dire
que Giono, alors à la fin de la guerre, en effet, a été ensuite libéré, heureusement d'ailleurs, mais que Giono a continué non seulement à écrire, mais à parler. Et moi, je dois dire que j'entends Giono régulièrement quand je monte dans ma bibliothèque. Et vous savez, dans une bibliothèque, tous les livres ne sont pas mauvais. Il y en a qui vous rappellent la bonne lecture. Et puis d'autres qui sont carrément bavards. Et quand je suis là, comme ça dans ma bibliothèque, il arrive que Giono, d'un seul coup, m'interpelle. Alors, as-tu lu celui-là? Et je prends un livre de Giono et je continue. Voilà.
Bavard, vous l'êtes aussi pour notre plus grand plaisir, Gérard Calmette. Je rappelle donc que l'on peut prolonger cette émission en allant lire votre essai, Giono m'a dit, c'est aux éditions de l'Armançon. Écoutez vous aussi ce que Giono a confié à Gérard Calmette. Merci d'avoir été avec nous pour ce 85e numéro de l'émission littéraire de Radion. Je rappelle aussi, alors votre petit dernier, parce que finalement c'est le plus récent, Kader Aziz Aubry de Vézelay à Béjaïa, de Gérard Calmette aux éditions de l'Armançon, hein, deux livres dans l'année 2012, mais on reparlera de ce dernier livre un peu plus tard dans Wagon Livre, de Vézelay à Béjaïa, donc un livre qui met en lumière Émile Aubry, une figure emblématique de la culture algérienne, hein, né en Algérie, à Sétif, premier prix de Rome, mort et inhumé, à quelques kilomètres finalement du village où vous habitez, à Voutenay-sur-Cure. Il est mort en 1964. Oui. C'est une manière aussi de parler de l'orientalisme pictural, Matisse, etc. etc. Mercredi prochain, Gérard Calmette, je recevrai dans Wagon Livre quelqu'un que vous connaissez bien, puisque c'est votre éditeur. Alors, vous en avez eu plusieurs, mais votre éditeur bourguignon, puisque Gérard Gautier sera à votre place pour... parler de
Gérard Calmette.
peut-être. En tout cas, il parlera de son bébé, la maison d'édition, les éditions de l'Armançon. Nous recevrons donc Gérard, un autre Gérard, mais un Gérard Gautier. Gérard Calmette, bonsoir et merci d'avoir
merci
été
aussi
avec
à
nous.
Vous. Merci aussi.
Impossible, avant de nous séparer, de ne pas évoquer les 3e journées internationales Romain Rolland qui se sont tenues du 4 au 7 octobre dernier, d'abord à Avallon, ensuite à Clamecy, la ville natale de l'écrivain Romain Rolland, prix Nobel de littérature en 1915, puis au centre Jean-Christophe à Vézelay. L'occasion pour Martine Liégeois de rappeler le rôle de l'association Romain Rolland qu'elle préside.
Le premier but, c'est la réédition de l'œuvre. Parce que tant que l'œuvre ne sera pas rééditée, peut-être pas dans sa totalité, mais sur la plus grande partie, eh bien, ça sera vraiment privé de sa pensée, de la réflexion qu'on peut avoir sur lui, de nombreux lecteurs. Parce que, en fait, Romain Rolland a une œuvre considérable et qui intéresse à des niveaux très différents. Là, en ce moment, on parle des journées internationales qui sont consacrées à la musique, mais c'est aussi un homme, évidemment, connu pour ses pensées pacifistes, pour ses liens, pour le réseau extraordinaire qu'il a tissé avec tous les intellectuels du monde entier, toujours dans cette idée de paix, de fraternité entre les hommes, et que ce soit du côté de l'Allemagne avec Zweig, avec Hesse, du côté de l'Inde avec Gandhi, Tagore. Il y a des facettes tellement extraordinaires à explorer par rapport à Romain Rolland qu'il nous semble passionnant de pouvoir justement œuvrer dans cette idée d'accompagner, on ne peut pas avoir la prétention de dire qu'on va faire rééditer l'œuvre nous-mêmes, mais d'accompagner les éditeurs dans cette démarche. Alors, parce que tout simplement, si je puis dire, quand l'œuvre sera rééditée, elle pourra être remise au programme, ce qu'on appelle au programme, c'est-à-dire à nouveau étudier dans les écoles et dans les universités, parce que ce sont donc les universitaires qui choisissent bien souvent les auteurs du programme, mais pour cela il faut qu'on trouve leurs livres. Alors bon, faut pas être pessimiste, on a quand même depuis quelques années de très nombreux universitaires qui nous ont rejoints. Certains sont encore sont des jeunes universitaires qui sont en poste et qui donc entraînent des étudiants à travailler, à faire des thèses sur Romain Rolland, justement. Donc en fait, c'est par cela que le message de l'intérêt de l'œuvre passera et que à nouveau il y aura et réédition et à nouveau étude de l'œuvre.
Qui devient membre de l'Association des Amis de Romain Rolland ? Universitaires, des gens de tous horizons sociaux, politiques ?
Oui, absolument. Justement, pour les raisons que je vous disais tout à l'heure, il s'est intéressé à l'homme, bon, et donc à l'homme dans toutes les cultures, dans toutes les époques. Et de ce fait, on a des adhérents qui sont effectivement des universitaires, mais on a des adhérents qui sont des gens qui ont trouvé dans son œuvre de l'espoir, qui ont trouvé la fraternité et qui sont de façon très affective touchés par cette œuvre. Donc en fait, il y a vraiment tous les publics. L'association a des correspondants et des adhérents dans 24 pays. Il y a l'œuvre qui a été traduite dans presque toutes les langues. Donc on va, grâce à Internet, ça c'est vrai que le réseau d'adhérents de l'association, c'est considérablement élargi grâce à Internet. Donc, en fait, on s'aperçoit qu'on a des intellectuels, mais il y a des personnes qui ont vraiment juste une soif d'apprendre et une soif de communiquer leur passion ce qu'ils ont puisé d'humanité dans l'œuvre. Et donc ça touche absolument toutes les couches sociales, tous les pays, enfin tous les hommes.
Et combien de membres compte l'association d'octobre 2012?
350, il y a 350 adhérents, donc répartis dans 24 pays, en France et dans 24 pays, dans la région aussi. Nous avons 500 correspondants. Parce que il y a de nombreuses bibliothèques maintenant, aussi bien en Lituanie qu'en Allemagne, qu'en Inde, qui sont adhérentes de notre association aussi. Le fait d'Internet fait que, de la mise en ligne des ouvrages des bibliothèques fait qu'on arrive à trouver les cahiers de brève, qui sont la publication qu'édite l'association deux fois par an. Et qui publie des articles d'universitaires ou même des témoignages. D'ailleurs, bon, on va trouver cette revue en ligne dans le monde entier maintenant. Donc en fait, on s'aperçoit que quand on lit une thèse, notre revue est référencée. Ça, c'est aussi un plaisir que nous avons depuis un petit moment aussi.
Romain Rolland est né à Clamecy. Il repose à Brève,
oui,
petit village de la Nièvre.
Oui, d'où ses grands-parents étaient... était issu, et donc il est mort à Vézelay, et et il a désiré reposer avec, avec ses ancêtres. Enfin, il était très attaché à sa petite patrie, comme il disait. C'est quelque chose de touchant pour un citoyen du monde.
Martine Liégeois, présidente de l'association Romain Rolland, rencontrée à Avallon le 4 octobre dernier lors de l'ouverture des 3e journées internationales Romain Rolland. Quelques manifestations culturelles autour du livre dans les jours à venir dans Lyon, déjà demain à 19h30 à la librairie Oblique rue Joubert à Auxerre. Rencontre lecture avec Thomas Vineau autour de son second roman, Ici ça va, aux éditions Alma. C'est donc demain à 19h30 à la librairie Oblique. À Vézelay cette fois-ci, vendredi 12 octobre à 18h30, rencontre avec Michel Bourgon, écrivain en résidence à la Maison Jules Roy à Vézelay. Elle nous vient de l'Outaouais, c'est une province du Québec, et elle est en résidence d'écriture à Vézelay pour quelques semaines. Vous aurez donc la possibilité de la rencontrer donc ce vendredi à 18h30 à la Maison Jules Roy à Vézelay. Samedi 13 octobre à la bibliothèque Georges Semprin de Villeneuve-sur-Yonne à 17h30, carte blanche à un éditeur, et c'est Rémi Couvignoux de la Gazette 89 édition qui évoquera sa maison d'édition, son catalogue et ses dernières parutions. Samedi 13 octobre toujours, mais à 17h, c'est au hameau de la Goulotte à la maison Zervos à Vézelay, et dans le cadre du 50e anniversaire de la mort de l'écrivain Georges Bataille, Christian Limousin, poète et critique, donnera une conférence qui aura pour thème Bataille-Zervos, convergence et divergence esthétique. C'est samedi 13 octobre à la maison Zervos à 17h au hameau de la Goulotte à Vézelay. Et puis, dans le cadre des activités de la Maison Colette, il me faut absolument mentionner les 13 et 14 octobre prochains à Saint-Sauveur-en-Puisaye, la première édition du Festival international des écrits de femmes. Le thème de cette première édition est « Femmes et journalisme ». Cette première édition sera présidée par Laure Adler. Des rencontres, des tables rondes, des lectures et un salon du livre des écrits de femmes rythmeront donc ce week-end les 13 et 14 octobre avec Laure Adler, Catherine Clément, Régine de Tambel, Caroline Fourest, Marie-Monique Robin, Françoise Laborde, Josiane Savigno. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce numéro de Wagon Livre. Rendez-vous la semaine prochaine, 17 octobre, avec Gérard Calmette pour parler de Jean Giono. Merci de votre fidélité. Au revoir à toutes et à tous et à mercredi prochain, toujours sur Radio.